là, je me dis, je vais mourir. Je commence à intégrer l'idée que ça peut arriver et que je vais être un fait divers comme d'autres.
Quand dans sa vie, on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Alex.
Bonjour.
J'allais dire, tu t'appelles Alex, non? Donc, tu t'appelles Alex.
C'est un bon début déjà.
Ouais. Tu as une trentaine d'années. Et j'aimerais bien que tu me racontes un épisode de ta vie qui est arrivé à Noël il y a quelques années.
Ouais. En fait, on est quelques jours avant Noël et j'ai un petit souci, c'est que je commence à avoir sur le côté droit des petits flashs lumineux. Et je suis à mon bureau à ce moment-là. Je suis en train de bosser et je me dis peut-être que c'est l'halogène. Et ce petit flash lumineux, en fait, il me pose souci parce qu'il devient de plus en plus fort et ça vibrillonne un petit peu. Et c'est pas le plus problématique puisque j'ai quelques heures après, en fait, une tache qui apparaît au niveau de ma vision sur l'œil gauche. Et là, évidemment, comme un couillon, je me dis, oh non, décidément, c'est halogène. Et je me dis, il fait sombre, je suis dans un bureau, je suis tout seul dans ce bureau qui est, comment dire, dans un vieux bâtiment, il est en cour intérieure, j'ai une fenêtre qui donne sur un autre bâtiment, donc du coup, j'ai pas de lumière naturelle. Et ma colocataire de bureau déteste la lumière des halogènes, donc on fonctionne avec une toute petite lampe, un truc merdeux, et je me dis, bon, bah vraiment, c'est moi qui vois sombre. Et en fait, non, parce que cette tâche, elle s'agrandit. Et au fur et à mesure que les heures passent, je me rends compte que je suis en train de perdre la vue sur l'œil gauche, avec toujours des flashs lumineux sur l'œil droit. Et là, manifestement, on n'est pas sur un problème électrique. Et ça m'inquiète, mais ça m'inquiète calme.
D'accord.
Tu vois, ce truc où tu te dis, ok, il y a quelque chose, visiblement je saigne de quelque part, j'ai un bras cassé, mais tout va bien se passer, il y a des professionnels qui sont là pour gérer ça. Le truc le plus normal quand on est au boulot et qu'il nous arrive un truc comme ça, c'est de dire à son N plus 1, pardon, mais là, je ne vois plus. Mm. Comment ça, tu vois plus? Ah, c'est vrai, là, sur mon œil gauche, c'est très compliqué. Là, j'ai une tâche. Va aux urgences, enfin, j'ai un truc.
On pense à un truc neuro, un AVC, un truc comme ça.
Bah ouais, j'ai une gueule compliquée, mais... Mais je me dis, voilà, je suis pas dissymétrique, donc tout va bien, et donc je décide d'aller aux urgences ophtalmo. Alors, urgences ophtalmo, en fait, c'est, on a les applis bien connues maintenant où tu peux avoir des rendez-vous assez faciles. Et je regarde, parce que je vais pas aux urgences tout de suite. Je me dis d'abord, je vais voir un professionnel pour avoir son avis. Il va me donner 3 gouttes et ça va repartir. Et je vois qu'on a un ophtalmo, tu vois, qui est dispo, un centre comme ça où c'est un peu à la chaîne. Et j'y vais, t'as plein d'examens à passer, machin, et le type qui me récupère à la toute fin, après avoir fait le fond de l'œil, les conneries, me dit, vous allez aller à Rothschild, à la Fondation Rothschild, qui en fait est spécialiste sur les yeux, et eux, ils vont pouvoir vous aider, mais là, vous y allez maintenant. Il dit, mais alors, on est à quel niveau de complexité? Il me dit, vous y allez maintenant.
Et tu t'entends le stress dans sa voix?
J'entends le « m'emmerde pas, chaton, je vais pas te dire ce que c'est ». Il me fait un courrier, sauf que on vient de me faire un fond de l'œil, je suis incapable de lire ce qu'on m'a fait. Et là où je trouve que c'est pas cool, c'est que je sors de l'établissement, je vois rien. Je suis incapable de pouvoir décrocher.
T'es tout seul?
Mais je suis tout seul. Mon téléphone, c'est flou. Là, je peux même pas en fait composer un numéro. Ouais. Enfin, je vois rien du tout. Je suis obligé de demander à un passant, dire excusez-moi, est-ce que vous pouvez composer tel numéro recherché dans mon téléphone, etc. Pour que je puisse prévenir mon boulot qu'en fait là, je dois aller aux urgences. Et puis, ben, j'ai pas d'autre solution. Là, je suis à côté des Champs-Élysées.
Ok.
Rothschild, c'est dans le 19e arrondissement, donc en fait, pour ceux qui sont pas parisiens, c'est assez loin. Et bon, j'ai ma boîte sympa, enfin là où je bosse, qui me dit on te prend un taxi, on t'appelle un truc. Donc ils se débrouillent en fait pour que je puisse pouvoir aller pour m'aider. Et j'arrive tranquillement à Rothschild en me disant bon, je ne sais pas ce qui se passe, je perds ma vision. J'ai un peu jeune quand même, j'ai la mi-trentaine, bon, je m'inquiète pas plus que ça. L'examen est super long, mais en même temps, ils sont débordés et ils sont adorables. Donc, débordés plus adorables, ça veut dire bah tu gardes patience,
bien en fait.
Voilà, et j'arrive enfin mon tour où j'ai le droit à... on regarde mes yeux, effectivement, et puis on me dit, on va vous faire un scan. Enfin, peut-être pas le bon terme technique, mais en gros, on va me regarder le cerveau, quoi.
Ok.
Et donc, on passe dans la machine.
Ah oui.
Écoute, cette espèce de centrifugeuse énorme, comment dire, où t'as le nez collé à 5 cm du bord, ça te met pas dans une situation où j'étais pas stressé avant ce moment précis où j'ai les yeux collés en fait à la paroi du scan qui fait un bruit de tondeuse batteuse.
Et t'as tout le corps qui est dedans ?
J'ai juste la tête. Et d'ailleurs en plus on te met dans une espèce de sarcophage au niveau de la tête.
Okay.
Donc là tu peux pas bouger, rien. Là, j'ai l'angoisse qui monte. Et on me dit, bon, alors, il y a une tâche. Ok. Qu'est-ce que je fais de cette putain d'information? C'est difficile de m'expliquer, de me faire comprendre ce que c'est, etc. Je dis, je suis pas spécialiste, donc allez-y un peu franco. Je m'attends à ce qu'on m'annonce c'est un cancer du cerveau, etc. On me dit, il y a une poche, il y a un truc, va falloir faire des analyses biologiques.
C'est-à-dire quoi, une prise de sang?
Ouais.
D'accord.
Prise de sang, alors visiblement beaucoup, je sais plus combien de tubes on me prend, mais suffisamment. Et vous revenez demain pour qu'on voit les résultats. Bon.
C'est en partie rassurant parce que on se dit, j'ai pas du sang qui coule dans le cerveau, j'ai pas un truc.
Ouais.
Tu sens que c'est pas vital s'ils te disent de revenir le lendemain. Quoi.
Bah en fait, t'as toujours ce côté un peu ambivalent de dire, bon, ce sont des professionnels. Je ne suis pas plombier moi-même, mais je ferais appel à un plombier si j'avais un souci. Donc là, eux, ils sont censés quand même savoir un peu ce qu'ils font. Et en même temps, tu peux pas t'empêcher de te rappeler de tous les trucs que t'as scrollé sur Twitter, Facebook et autres où t'as vu scandale, machin. Tu sais, c'est
ouais.
Après 30 ans, ils portent plainte. Enfin,
c'est humain.
Voilà, c'est cette espèce de tornade comme ça. De ok, je vais faire confiance, mais quand même, je suis un peu flippé. Et je dis bon bah vaille que vaille. Hein, s'il faut que je meure dans mon sommeil, voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, pour de vrai. J'ai fait le ménage dans ma boîte mail et dans mon historique internet le soir pour être tranquille et en disant on sait jamais et
t'as vidé les photos masquées dans ton portable.
Ah ouais, non franchement j'ai fait je me dis on me trouve inconscient ou je sais pas quoi, voilà, faut être tranquille. Le lendemain quand j'y retourne, de toute façon mes employeurs me disent tu prends le temps qu'il faut, c'est pas un problème, le plus important c'est la santé. Et je les remercie vraiment aussi d'avoir été pas culpabilisant et pas chiant là-dessus. Et quand je retourne à Rothschild, j'ai rendez-vous avec une spécialiste et elle me dit bon, on trouve pas trop, c'est un peu bizarre. En fait, vous avez une poche, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et je lui en sais gré, c'est une stagiaire. Alors, je sais pas trop, une interne, bon, j'ai pas très bien compris, mais visiblement, c'est une stagiaire qui a suggéré de faire une recherche sur les IST, donc les infections sexuellement transmissibles, etc. Et qui n'avait pas été regardée lors du précédent examen. Et j'ai assez peu de crainte, vu mon activité sexuelle les derniers temps sur les IST, mais je dis bon, faisons. faisons, mais je me dis, il se gourre. Et bah, en fait, non, puisque j'apprends que en fait, j'ai une syphilis, et c'est assez particulier parce que la syphilis, elle peut se développer au niveau du corps, avec des plaies, etc. Mais aussi, elle peut, et quand elle est très longue, quand ça fait un petit bout de temps qu'on l'a, notamment à peu près un an, bah, elle peut se, comment dire, provoquer des poches, notamment dans le cerveau. Et ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai une poche bactérienne de la syphilis dans le cerveau qui pousse contre mon nerf optique et qui génère ces flashs. Et en fait, ce que je vois comme la tache noire, bah, c'est la petite tache noire qu'on a dans le fond de l'œil, hein, c'est le nerf optique. Sauf que moi, ça dévie. Et donc, bah, je perds la vision sur cet œil à cause de ça, parce que la tache, enfin la poche grandit de plus en plus. Voilà. Et on me dit, ah, mon cher ami, là, il va falloir vous hospitaliser tout de suite. Voilà. Là, on me laisse pas le choix. Et sauf que moi, j'ai pas de caleçon propre. Et donc, je dis, bah non, on peut pas m'hospitaliser, c'est pas possible. Il m'a dit, elle est. La médecin un peu vulgaire à ce moment-là, en gros, me dit, mais vous arrêtez de vous foutre de moi. Enfin, là, on y va. Et bon, je peux pas, pour tout un tas de raisons. Enfin, effectivement, j'ai rien de propre, j'ai rien sur moi. Je peux pas me faire hospitaliser comme ça, du but en blanc.
T'as conscience que quand on écoute ça, on se dit, mais c'est dérisoire, c'est tellement important ce qu'il a, on s'en fout, ils lui fileront une chemise ou un truc d'hôpital et faut y aller.
Ouais, en fait, je pense que j'avais besoin de mon sas de décompression, de rentrer à la maison, de morfler un peu dans mon oreiller. De morver plutôt dans mon oreiller et d'avoir des caleçons propres, parce que j'ai déjà fait plusieurs séjours à l'hôpital, que quand t'as pas de caleçons propres, c'est quand même extrêmement embêtant, parce que là, le traitement qu'on me propose, c'est 15 jours non-stop, avec toutes les 4 heures pendant 15 jours un antibiotique et en intraveineuse, voilà. Et c'est pas hyper agréable, parce que déjà ça brûle un peu, ça fait un peu mal, et toutes les 4 heures, c'est la nuit, le jour, peu importe, et j'ai mes veines pètent au fur et à mesure, enfin, c'est un bonheur absolu. Et là où j'ai un petit souci, c'est que quand la médecin me dit, bon bah, il va falloir quand même peut-être prévenir les gens avec qui vous avez des rapports récemment, parce que quelqu'un vous l'a filé. Ben moi, j'ai pas eu de rapport depuis un an, en fait, qui correspond à peu près au moment où, selon elle, il y a eu cette infection, vu le stade de développement de la maladie. Et par acquis de conscience, je pose la question à des gens que je fréquentais de façon très régulière et que je voyais, mais avec qui j'avais plus de rapport depuis un an. Et ils m'ont dit, bah non, nous, on n'a rien. Enfin, les trois à qui je pose la question me disent, zéro problème. Et il y en a un à qui je peux pas poser la question. Et parce que j'ai plus de contact avec cette personne, et c'est là où je commence à bader un peu, parce que...
Tu es à l'hôpital à ce moment-là ?
Ouais, je suis à l'hôpital, je discute avec une infirmière, très gentille. Franchement, j'ai pu vivre ces 15 jours à Noël et jours de l'an, et d'ailleurs, on mange très très mal à l'hôpital, mais... Noël et jour de l'an, c'est presque pire. Mais il fallait pour moi, à ce moment-là, pouvoir dire à un professionnel de santé, où j'avais le sentiment qu'il n'y aurait pas de jugement et plutôt un accompagnement, pouvoir dire que ce rapport sexuel que j'ai eu et qui m'a transmis cette syphilis, c'était pas un rapport consenti. C'était un rapport qui intervenait... avec beaucoup de violence et donc ça a été un viol, voilà. Et ça a été comment dire, l'onde de choc de ma déflagration. C'est il y a un an, on m'a violé, et un an après, je me retrouve à l'hôpital avec une maladie dont je vais guérir, mais qui me plonge dans un état de douleur, parce que c'était vraiment pas agréable, et qui me met désormais devant un champ très vaste, qui est celui de ma propre reconstruction que j'ai refusé de voir.
Alors, est-ce qu'on peut faire un retour dans le temps? un an avant cette hospitalisation, quand ça t'arrive.
Ouais. C'est un sujet qui est important pour moi aujourd'hui, parce que ça recoupe énormément de choses auxquelles je crois. Et au moment où ce viol arrive, je suis hyper sensibilisé et sur les violences sexistes et sexuelles, même plus qu'hyper sensibilisé, c'est-à-dire que c'est mon boulot. C'est-à-dire que je travaille sur ce sujet, je suis en train de réfléchir à comment on peut améliorer les dépôts de plainte, comment on peut améliorer la prise en charge des victimes, donc violences sexistes, sexuelles et aussi violences conjugales. Enfin voilà, ça fait partie de mon quotidien. Et on est un mardi. Et le mardi, c'est une chouette journée que j'aime bien. C'est l'une des journées de la semaine que je préfère, étonnamment, parce que la semaine a quand même bien commencé. Mais je m'autorise toujours, généralement le mardi soir, il y a très longtemps c'était Tintin le mardi soir, et je m'autorise toujours un truc, un film, une sortie, enfin voilà, c'est un truc à moi. Et là, je m'autorise, ce qu'on appelle dans le langage courant un plan cul, je connais déjà d'ailleurs, j'ai rencontré il y a quelques jours, ça s'était bien passé, c'était rapide, pour tout un tas de raisons, mais c'était bien passé. Et on est sur une consommation sexuelle de l'ordre du « on se voit, on est adulte, on s'amuse ». Comme disait Jacques Brel, « faut bien que le corps exulte », tu vois. Et on lâche, bref. Donc je lui donne... on se donne rendez-vous ce mardi soir. Il vient une première fois, je crois il doit être 20h, il est 20h, il arrive, on se voit, bon, on fait 2-3 trucs, mais il est ailleurs, il a d'autres choses prévues visiblement, bon. Il dit non mais là je décolle et je repasse. Ok, je me sens très bien traité par cette situation, j'aime beaucoup. Mais il a quelques atouts sympathiques et puis je suis une âme faible, donc je lui dis bah d'accord, repasse. J'ai que ça à faire de mon mardi soir que d'attendre. Et il repasse tard. Il repasse quand même très très tard. Il est minuit passé. Et quand il repasse, j'ouvre la porte, voilà. Et dès le départ, il est ultra violent. Pas verbalement, mais physiquement. C'est-à-dire que j'ouvre la porte, il me gifle. Et donc là, il y a un truc.
Je voudrais dire aux auditeurs, pour qui ça pourrait être un sujet sensible, de faire avance rapide et de... Même si on va parler avec pudeur, je voudrais faire une alerte pour ceux pour qui ça peut éveiller des souvenirs ou des choses compliquées.
Oui. C'est pas anodin, effectivement, parce que c'est un mécanisme que beaucoup connaissent, c'est-à-dire ce moment où on est sidéré par la violence qu'on reçoit et on se dit « Ok, qu'est-ce que je fais ? Comment on va s'en sortir de ça ?»
Tu t'es dit quoi à ce moment-là ?
Au tout début, je me revois vraiment enfant en me disant « subir la violence ». Parce que efféminé, parce que machin, et me dire mais quand j'étais gamin, je bougeais pas, je disais rien, je me laissais taper et ça passait. Et là je me dis exactement la même chose. Ok, laisse passer, laisse frapper, négocie le ok, tout va bien, merci, au revoir, visiblement t'es pas bien, la sortie c'est par là, et le mec est bourré. Le mec a visiblement pris des substances aussi. Dans la communauté gay, ça circule beaucoup trop. Et à son phrasé, je sens que il va pas bien. Il me regarde, il est incohérent. Enfin, ce qu'il dit n'a pas de sens. Et il me frappe. Donc, il me gifle. Il utilise sa ceinture aussi. Donc là, je dis ok, là il y a là on commence à avoir un gros problème. Je lui dis bon, on arrête, stop. Voilà, il ne veut pas que ça s'arrête et il intensifie la violence. Et plus il intensifie cette violence, plus je me dis à ce moment-là, pareil, laisse faire, laisse couler, laisse pisser, te défends pas. Et si jamais il y a un problème, tu te défendras. Enfin,
oui, tu rends pas les coups.
Non.
Tu t'essaies de calmer plutôt que de.
Ouais, je me dis, je préfère éteindre un incendie plutôt que de provoquer un embrasement.
Je comprends.
Et parce que j'ai très peur qu'il me fasse très mal. Sauf que là, on arrive à un stade où ça devient. Là, on arrive dans l'agression, c'est-à-dire que on est sur fellation forcée, on est sur pénétration forcée digitale. Enfin, là, on est sur des choses où je lui dis non, je lui enlève la main, je le mets de côté, je lui dis plusieurs fois arrête. Le mot est très clair, arrête, stop. Et il n'entend rien. Il est, et là, on bascule sur un truc où, à ce moment-là, je me dis que je vais mourir. Je commence à intégrer l'idée que ça peut arriver et que je vais être un fait divers comme d'autres. Il est sur moi, je suis sur mon canapé qui est assez petit, qui est pas très profond, mais il est assis sur moi, je suis allongé là-dessus, je suis sidéré déjà, je suis assez obèse, donc j'ai pas de force pour me relever, c'est compliqué, la position est vraiment pas confortable et pratique, et là il renverse une bouteille de poppers, qui est alors en fait un poppers, c'est une espèce de dissolvant normalement, mais qui est utilisé pour mettre dans un état un peu euphorique, et ça détend notamment les sphincters, le poppers, voilà. Donc c'est très utilisé notamment dans les communautés gay, mais pas que, mais c'est assez connu. Et lui prend la bouteille de poppers qui est pleine, la renverse sur un oreiller, et me met l'oreiller sur la tête. J'essaie, mais il appuie de toutes ses forces. C'est-à-dire que là, il l'appuie sur ma tête avec cet oreiller. J'ai le poppers qui me brûle le visage, qui me brûle les yeux, c'est les narines, enfin, tout s'enflamme. En fait, mon visage s'enflamme. Et j'ai un, tu sais, ce hoquet du, tu sais plus, tu sais, t'as l'impression de te noyer en étant à l'extérieur, en fait. Et lui est en train de hurler, il dit « c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre ». Et alors là, je comprends qu'il est dans un monde qui est totalement ailleurs et très loin du nôtre. Je pense que le type a vécu des trucs très compliqués aussi. Et je sais pas s'il revit, enfin, peu importe, et je m'en fous, j'ai envie de dire. Mais là, l'oreiller sur la gueule, le visage en feu, je me dis « ok ». Là, j'y passe. Et j'ai 3 secondes où je suis en train de me dire soit tu laisses faire, soit tu te défends. Si tu te défends, tu vas avoir mal. Mais c'est soit t'as mal, soit tu crèves. Donc, écoute, entre les deux, vas-y. Mais j'ai dû prendre cette décision. J'ai senti en moi le besoin de dire soit t'abandonnes, soit tu prends la décision de te mettre. Et j'ai poussé un cri. J'ai profité d'un moment où en fait il ressoulevait l'oreiller pour pousser ses bras avec une force qui m'a fait très mal. J'en ai eu mal plusieurs jours après, que ce soit sur mon dos, mes bras, mon ventre, mes cuisses. Et j'ai hurlé. Et un cri primaire qui te monte des entrailles de la terre. J'avais un acouphène juste après aussi. Enfin, et le fait de ce cri-là, ça l'a stonné. C'est-à-dire que ça l'a pétrifié d'un coup. Et j'ai vu dans son regard, dans son visage, il s'est réaligné d'un coup avec le temps et l'espace. Et je ne sais pas s'il réalisait ce qu'il était en train de faire ou pas, parce que de toute façon, il était dans un état très avancé. Et puis là, le poppers puait dans la pièce, ça mettait dans un état très compliqué en plus. Et j'ai profité de ce moment de, entre guillemets, calme, et en tout cas de pétrification, pour le pousser, l'éjecter de moi, au prix de nombreuses douleurs, et de tomber, en fait, d'essayer de le faire tomber de mon canapé. Et moi, de me lever, je suis à poil, je suis... Lui, il a enlevé son pantalon, sa ceinture traîne quelque part. Je fonce tout de suite vers la porte. J'ouvre la porte en grand peu importe si j'ai mes voisins d'en face, je suis dans un immeuble, donc je suis dans un couloir d'immeuble, mais peu importe qu'il y a, j'ouvre la porte et je hurle, dégage, dégage, et je répète, comme ça, en me disant, j'ai hurlé une première fois, je l'ai pétrifié, en continuant de l'amener comme ça à hurler, je vais le maintenir dans cet état de sidération lui aussi et réussir à le faire partir. Et ça fonctionne quand même. Et je lui dis tu dégages, tu dégages, tu dégages. Et il cherche ses affaires, il est en mode pilote automatique. J'ose pas m'éloigner de la porte pour aller chercher ses fringues parce que je vois bien qu'il tarde en cherchant ses fringues. Et je lui dis plus vite il sera dehors mieux c'est. Mais si je m'éloigne de la porte, lui-même peut aller la fermer. Enfin, là je vois toutes les possibilités pires. Donc je décide de continuer à hurler. Et en hurlant, alors il est 2h30, 3h du matin. Aucune porte ne s'est ouverte. Comme quoi, c'est très bien insonorisé.
Non, ou alors que les gens sont des trouillards.
Ouais, je pense. Je pense et je peux pas leur en vouloir.
Enfin, tu peux être trouillard et appeler la police depuis derrière ta porte. Hein.
Ouais, ça aurait été opportun, je pense. Mais ça, c'est un vrai sujet, hein, d'ailleurs. Être un témoin et intervenir, c'est un vrai sujet. Mais il arrive à finir à trouver ses affaires et il passe devant moi. Il essaye de me refrapper en passant devant moi parce que là il se réveille et je lui fais un croche-pied et je claque la porte avec ce truc de me dire mais je vais lui coincer les doigts, je vais lui coincer les pieds,
pour lui faire mal.
Et je me dis je peux lui faire mal en lui claquant la porte sur les doigts ou autre etc. Mais je me dis je me prends le risque. Le but c'est que je l'expulse. Je dois expulser ce mec de chez moi et de moi. Et bon je lui ai pas coincé les doigts ou quoi que ce soit. Et je claque cette porte et il est dans le couloir. C'est étrange parce que c'est le moment où c'est le calme après l'accident, tu vois. C'est tu te dis ok, maintenant je vais regarder si j'ai un truc cassé. C'est un peu l'idée du il vient de se passer quelque chose, je vais vérifier si tout va bien. Lui je l'entends prendre l'ascenseur, il part. J'attends encore quelques minutes dans le silence. En me disant, il a passé les portes, il est parti de chez moi. Ça y est. Et lui m'envoie un message sur l'application où on avait discuté. J'ai pas cherché à savoir ce qu'il me disait, je l'ai bloqué tout de suite. Et ma priorité, c'est un, prendre une douche. Et deux, surtout, mettre ce coussin à la machine à laver parce que mon appartement empeste le poppers. Et une fois que j'ai fait ma douche et le coussin, je suis en fœtale sur mon canapé, ma porte-fenêtre ouverte en grand, peu importe si les voisins d'en face peuvent me voir, je suis à poil, j'en ai rien à carrer à ce moment-là. L'idée, c'est évacuer l'odeur, évacuer le souvenir. C'est voilà. Nuit compliquée pour un mardi soir.
Les gens qui vont écouter sont comme moi, pas du tout des professionnels, mais je pense qu'on s'est tous dit, en bloquant, il efface la conversation, en prenant une douche, il efface l'épreuve, pareil en mettant les choses à la machine. On pense à ça et on pense tout de suite à et comment ça va se passer pour lui faire payer en justice cette agression monstrueuse.
Ça n'a jamais été ma priorité. Et ça n'a jamais été... pour une fois, ma priorité, ça a été moi, en fait. Et d'ailleurs, j'ai pas voulu porter plainte. Et je veux pas porter plainte. Je me réveille le lendemain, j'ai une espèce de gueule de bois. Déjà parce que le poppers m'a fait très mal à la tête. Et puis il faut aller bosser, il faut y aller et je me dis sur le chemin je peux m'arrêter tout de suite là, aller au poste de commissariat le plus proche et puis dire bah il s'est passé un truc, j'ai été agressé, voilà. Et je me fais le chemin de ça et je projette le champ des possibles. Si je vais porter plainte, et je vais probablement montrer les conversations que j'ai eues avec lui. Bon, en tout cas, à un moment donné, ils vont y avoir accès. Peut-être la défense pourrait avoir accès à ça et montrer que je le chauffais, ce mec. Et donc, en fait, j'étais consentant pour une relation. Ouais, enfin, pas celle-là. Et puis, une fois que j'aurais porté plainte, en fait, là où je bosse, je suis absolument convaincu et je sais que j'ai raison. Et l'avenir m'aura donné raison sur d'autres faits qui ne me concernaient pas moi. Et ben, je sais que cette plainte, elle va atterrir sur le bureau de mon N+1 et de ma N+2. Et que d'autres gens vont être au courant. Et j'ai pas envie de leur regard sur moi, c'est une chose. J'ai pas envie aussi d'une brèche de faiblesse que certains pourraient exploiter. Je veux pas. J'ai quitté un autre boulot pour arriver dans celui-ci il y a pas très longtemps et je veux pas le quitter. Et je veux pas entraîner un truc où c'est une descente aux enfers. Donc je préfère me dire ok, on va vivre avec ça. On sait pas trop comment. Mais on va pas le dire, surtout. On va pas le dire, on va vivre avec, et puis on va serrer les dents jusqu'à ce qu'arrive ce fameux épisode oculaire. C'est-à-dire, je perds la vue. Enfin, la symbolique est assez drôle. Je refuse de voir quelque chose qui me traumatise. Parce que du moment où ce viol est arrivé jusqu'au moment où la syphilis me bloque la vue, j'ai plus une relation sexuelle avec qui que ce soit. Je crains de voir ce mec en permanence à côté de chez moi. Prendre les transports devient un enfer parce que j'ai peur de le reconnaître partout. Je le vois partout. Et je me dis, mais je vais pas pouvoir vivre comme ça longtemps, va falloir que je gère le problème. Et mais je n'arrive pas à le formuler. Voilà. Je dis, ouais, j'ai eu une altercation avec un type. Tu vois, la litote, toujours.
Ouais. Est-ce que tu veux raconter ce que tu as eu à faire le lendemain à ton travail?
Ah. J'ai toujours considéré que c'est pas parce qu'on est une victime qu'on est expert de son sujet. Mais je dois bien reconnaître que le lendemain de cette agression, au boulot, on m'a demandé de faire un discours sur les violences sexistes et sexuelles. Je pense que c'est le meilleur discours que j'ai jamais écrit. Pas parce que j'ai eu l'expérience d'eux, mais parce que chaque mot, chaque expression était un acte de colère. Parce que j'ai mis énormément de rage dans ce discours. C'est l'un des discours où j'ai pas eu de la compassion vers les victimes, mais où j'ai eu beaucoup de rage vers les auteurs. Et où j'ai voulu replacer dans ce message, qui a été très bien pris et qui a été utilisé par ma boss, en disant, ah, putain, il est bien, il est fort. Ouais, il est fort, ouais. Je voulais m'adresser à lui, enfin, je voulais m'adresser à tout cela, et puis à ce système de domination, de ce corps m'appartient, peu importe, enfin, j'avais envie de vomir, j'ai eu envie de vomir toute la journée, enfin, j'ai eu envie de vomir tout le temps, mais ça m'a fait du bien. C'était étrange, mais ça m'a fait du bien.
Après que t'en aies parlé là, pour une première fois aux infirmières et on redira jamais assez à quel point les personnels de santé sont des gens extraordinaires. Ouais. Alors, on le dit pas pour dire ça mérite qu'ils soient complètement dévoués. Ils ont pas... Pardon, c'est une parenthèse, mais même si on a la vocation, on doit être particulièrement bien traité. Parenthèse fermée. Est-ce que ça a changé ta façon de gérer l'événement, est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes, est-ce que ça a changé quelque chose?
Je suis passé d'un état où j'étais tout seul avec une douleur à un état où j'étais toujours tout seul avec une douleur, mais dans un partage de cette information et surtout en disant bon, en fait je sais plus faire tout seul, manifestement, c'est très lourd. Quelles seraient les solutions que vous auriez en tête pour pouvoir m'aider? En plus, enfin, comme je te disais, moi je bossais sur ces sujets-là, j'étais convaincu de savoir tout et voilà, je n'avais pas besoin de l'aide de qui que ce soit, j'allais m'en sortir très bien tout seul. Et en fait, m'ouvrir, non pas en disant accompagne-moi vers de la plainte, ou je cherche à le faire payer. Enfin, voilà, c'était pas l'idée, c'était moi, juste moi, je vais pas bien. Comment on fait pour que j'aille mieux? Et ça a tout changé. L'infirmière à qui j'en parle a été formidable. Elle a pas du tout été dans le jugement de quoi que ce soit. Je me suis excusé à plusieurs reprises de lui dire je vous charge de valises comme ça et ça me fait. Enfin, j'aime pas vous filer mes propres valises. Enfin, ça me gêne énormément. Et elle me dit mais vous êtes pas en train de faire ça. Vous me chargez de rien. Vous inquiétez pas.
C'est du soin.
C'est du soin, exactement. Et je n'avais pas encore accepté le moment où je devais moi-même être en convalescence et en reconstruction de ça. Et elle me dit si vous voulez, je peux vous mettre en relation avec la psychologue de l'établissement. Voilà. Tu dis oui, t'es en train de chialer, t'as de la morve au nez, tu viens de raconter tes viols il y a un an, tu dis oui. Voilà. La bouffe est babonne en plus, donc franchement, t'as aucune raison de pouvoir.
Franchement, c'est ça le pire de toute l'histoire.
Sans déconner. Non, mais ça a été un traumatisme. Je reviendrai pour la deuxième émission. Et
que sont-ils devenus?
La bouffe d'hôpital est pareille. Mais non, je plaisante. Ils ont des super prestataires.
Et c'est le psy qui te suit au quotidien, celle qu'elle t'a.
Non. En fait, c'était la psy d'hôpital est venue parce qu'elle a senti qu'il y avait une petite urgence à traiter le sujet. Et elle m'a dit, moi, je pourrais pas vous suivre. Par contre, je vais pouvoir vous orienter vers un confrère ou une consœur si vous préférez. Hein. Et j'ai choisi le confrère. Étonnamment, en fait, c'est con, mais ça a été un vrai problème pour moi de choisir un psy homme ou un psy ou une psy femme, parce qu'on est dans une agression sexuelle, on est dans un truc hyper intime qui relève de choses dont on parle pas forcément à tout le monde, et je ne sais pas vraiment avec qui j'aurais été le plus à l'aise. Et j'ai choisi un homme parce que je me suis dit qu'il allait avoir une empathie différente. Alors c'est peut-être probablement une mauvaise réflexion, mais c'est pas anodin en fait. Ça m'a vachement bloqué à un moment donné. Je sais pas.
Si quelqu'un nous écoute et a traversé une chose semblable, qu'est-ce que tu, avec le recul et la façon dont toi tu l'as géré, alors même si t'as pas décidé de le gérer comme ça, même si c'est, il y a beaucoup d'instinct, est-ce que t'aurais une recommandation, un conseil, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre qu'est-ce que je fais avec tout ce bordel qui est dans ma tête et dans ma vie?
Ouais, en fait, il y a plusieurs étapes. Ça fonctionne en séquence. T'as la séquence des deux premières semaines. Enfin, t'as la séquence immédiate du, il faut que je prenne une douche, il faut que ceci, il faut que cela. Enfin, ça nous appartient et en vrai, fuck off quoi. Enfin, dire, fais ce dont t'as besoin. Voilà. T'as besoin d'une douche chaude ou d'une douche froide ou peu importe. Prends-la. Franchement, fais-toi du bien. Parce que ce moment de dégoût ressenti sur l'instant, qui est une nausée d'une puissance infinie, ça marque au fer rouge l'esprit. Hein. Voilà. Donc, confort de soi, c'est une chose. Et je pense sincèrement que aller chercher, pas forcément auprès de proches, parce que les proches comprennent pas. Et je pense que les proches, au début, ne veulent pas forcément comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que, à gérer, c'est pas simple. T'es pas dans la situation, t'as du mal à accompagner la personne que t'aimes, que ce soit de la famille ou des amis, hein, mais c'est pas évident. Et je pense que pour soi-même, pour s'aider, mieux vaut ne pas se confier tout de suite à des gens qui peuvent collapser et qui peuvent décider de se dire « Oula, c'est trop pour moi, je suis désolé, je vais pas pouvoir t'aider. »
Choisir de parler à des gens solides ou à des tiers.
Ouais.
D'accord.
Ouais, je suis convaincu de ça. Aujourd'hui, vraiment, avec le recul, je suis convaincu de ça. Et pour moi, ça a été la bonne méthode. Et quand j'ai tenté d'en parler avec des proches, j'ai senti que on n'allait pas aller plus loin. Enfin,
d'accord.
Au début. Mais donc je conseille ça.
Comment tu vas aujourd'hui?
Je ne sais pas répondre à la question comment tu vas, parce que c'est très vaste, mais je sais que j'ai désiré ardemment rester en vie, malgré quelques questionnements que j'ai pu avoir, parce que cette agression, elle se cumule avec l'hôpital, voilà, mais elle s'est cumulée avec énormément de choses, bon, du stress, ok, avec d'autres problèmes. J'ai eu un gros moment de bad quand, dans le cadre de mon boulot, un type nous m'a envoyé des menaces. Il m'a envoyé des photos de lui, bite, cul, etc. Et il a envoyé des photos de moi qu'il avait chopé sur Internet en disant que je vais être violée. Alors,
quel enfer.
Ouais, j'ai porté plainte pour ça, puisque c'était... j'avais une couverture, j'en plus juridique là-dessus. Enfin, c'était dans le cadre du boulot, machin. J'ai porté plainte. La policière qui m'a reçu m'a dit on est sur un pathopsie. Donc un pathopsie, c'est quelqu'un qui a un problème psychologique. Le mec, en fait, a un problème de traitement. On l'a chopé, on sait qui c'est. Voilà. Donc il a été jugé il y a pas longtemps d'ailleurs. Et il est à Rouen. Vous inquiétez pas, il viendra pas vous voir. Et je panique en fait quand elle me dit tout ça, je panique et je dis mais enfin moi j'ai un problème, c'est que cette menace-là, je la prends très au sérieux et c'est pas possible. On est à un moment où le boulot, c'est très très intense. Et vous me dites, mais je vais sortir dehors, je vais le croiser, il va m'agresser, etc. Et alors là, j'ai eu tout le revival, toute l'agression qui est remontée. Heureusement, nous remercierons jamais assez les Freudiens et les Lacaniens. Et les Caniens. J'ai été suivi à ce moment-là la psy de Rothschild m'avait vraiment orienté vers quelqu'un de bien. Et j'ai pu traverser cet épisode pas tout seul. Et alors ça a branlé dans le manche. Hein. Enfin voilà. Il y a eu des turbulences, il y a eu pas mal de moments où je me suis dit « Ah, on va arrêter en fait, hein. Merci pour le voyage, c'était sympa, t'as des idées suicidaires, quoi. »
Ouais, j'ai compris.
Voilà. Et alors que je n'avais pas eu de relation sexuelle depuis un petit bout de temps, j'ai commencé à refaire des rencontres avec des mecs, très soft, des choses...
tendre.
Ouais, on se touche, tu vois, mais ça va pas forcément plus loin. Parfois je pleurais, parfois c'est eux qui pleuraient, c'est assez drôle, pour tout un tas de raisons, et qui ne sont pas sordides, et c'est important de le préciser. Et puis il y a eu une rencontre, et alors le hasard est quand même assez dingue, parce que ce mec, je l'ai revu hier.
Ah, c'est drôle.
Avant de venir te voir. Et je trouve que le symbole est fort. Et je l'avais pas vu depuis cette première rencontre où il m'écrit, je vois sa photo, je me dis, oh putain, encore un fake.
Voilà, c'est tellement il est beau.
Beau gosse, là. Arrête, Michel, tu te fous de ma gueule. Et je me dis, bon, très bien, un fake, bon, on va jouer Fakeland.
Et finalement, non.
Et il me dit, voilà, je suis à côté, je suis là dans 2 minutes, ouais, c'est ça. Ouais. Ding dong. Oh merde.
Faut que je range l'appart en 30 secondes.
Mais oui, c'est le bordel absolu, c'était un enfer. Et ma vie était un bordel, mon appartement était un bordel. Et je vais ouvrir la porte, pas très rassuré, et je vois ce type beau comme tout, et gentil, enfin dans les yeux, dans le regard, dans tout, quoi. Et je sais pas, il doit être 23 heures à peu près. Il est parti de chez moi à 8 heures du matin, et on a passé un moment ultra tendre. Et en fait, c'est marrant parce que je te l'ai dit hier justement. Si tu ne sais pas, mais tu as parachevé une réparation que je n'arrivais pas à faire. Et alors je l'ai chargé d'un truc qui lui appartenait pas, mais j'avais quand même besoin de lui dire. De façon très égoïste, je l'ai fait. Et sa douceur, sa gentillesse m'a aidé à réapproprier un corps que je détestais encore plus que je haïssais auparavant, mais l'idée de la jouissance, l'idée d'être en sécurité sans avoir d'arrière-pensée, il m'a permis d'arrêter d'être parano avec quelqu'un, et ça a été hyper agréable. Et puis il m'a permis de m'autoriser à croire que c'était possible de faire une rencontre, voilà. Alors je l'ai vu une fois. Je l'ai revu hier, et entre-temps, j'ai pu redémarrer des rencontres, à refaire des plans, Bon, rien de romantique, hélas, pour le moment, et je lance un appel. Et ça, ça m'a, lui m'a beaucoup aidé, et les massages m'ont beaucoup aidé aussi. Me faire masser très régulièrement, 2 à 3 fois parfois par mois, c'était aussi un complément de thérapie, c'est-à-dire que quelqu'un me touche. Et ça, ça m'a été très très utile.
Est-ce que tu dirais que t'as bouclé un premier cycle de cette histoire et que t'entames un nouveau cycle de ta vie?
Ouais, totalement. Je me suis vraiment libéré du sarcophage de fer dans lequel ça nous enferme, parce que t'as une mémoire trauma avec ce truc. Elle est là, hein, toujours. On n'enlève pas une mémoire trauma, on la met pas de côté, on se la trimballe avec ses affaires, avec toutes les valises. Mais elle est plus aussi irritante, elle est plus aussi inflammable. On la rationalise également beaucoup. C'est-à-dire que oui, c'est une agression sexuelle, oui, c'est un viol, oui, c'est le type aurait pu me buter s'il avait envie. Mais j'en suis pas mort. Deux, je peux me reconstruire derrière ça. Et je veux pas tomber dans le cliché du ça peut arriver à plein de gens. Alors oui, ça arrive à plein de gens, enfin, hélas. Mais on a une force d'aller trouver des ressources de bonheur, de contentement. La vie ne se résume pas à un seul instant de notre existence. Jamais.
Merci.